Vous êtes sur RTL.
Le journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Encore un fiasco ce week-end pour la vaccination avec les doses AstraZeneca.
Les doses étaient là, mais les patients n'en veulent pas. Plusieurs centres de vaccination ont été contraints de fermer leurs portes. Dans ce journal également, le vote électronique pour lutter contre l'épidémie. La colère des policiers après le verdict du procès en appel des agresseurs de Viry-Châtillon. Et puis le premier hélicoptère sur la planète Mars.
RTL Matin.
Des patients qui font demi-tour dans les files d'attente des centres de vaccination quand on leur propose de l'AstraZeneca.
La crainte des effets secondaires a encore perturbé la campagne de vaccination ce week-end à Nice. Sur 4000 doses, seuls 58 patients ont pu se faire vacciner. Le centre a dû fermer ses portes. Même topo dans le nord, au vaccinodrome de Douai. 900 doses disponibles, 250 ont pu être écoulées. La directrice du centre de vaccination, Salia Grévin.
J'ai décidé de ne pas ouvrir ce jour. Je n'allais pas déplacer sept médecins, infirmières, pharmaciens, sages-femmes, l'accueil. Certains rebroussent chemin. Lorsqu'on leur dit que, bah, écoutez, sans rendez-vous, là, il ne reste plus que l'AstraZeneca. Des personnes qui sont venues spontanément demandent systématiquement d'abord le Pfizer. Certaines personnes disent OK, et puis d'autres disent non, quoi, c'est tout. Ils s'en vont, ils vont attendre. Il y a certaines personnes qui vérifient sur la seringue s'il y a bien l'étiquette Pfizer. D'autant plus que depuis vendredi, toutes les personnes qui ont plus de 60 ans sont également éligibles au Pfizer et au Moderna sans restriction. Et donc ça nous laisse, pour les personnes qui ne peuvent avoir recours à l'AstraZeneca, qu'une fenêtre de potentiellement entre 55 et 59. Les gens essaient de choisir et moi je pense que c'est le problème qu'on a.
Des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL.
RTL, 5h32. À l'approche de nouvelles élections, de nombreux maires militent pour le vote électronique pour éviter de propager l'épidémie.
Les départementales et les régionales sont prévues pour la fin du mois de juin. Certaines communes expérimentent déjà ces machines à voter depuis plusieurs années, comme dans le Val-de-Marne, Gauthier Delambugard.
Les électeurs de Villeneuve-le-Roi profitent du vote électronique à chaque scrutin depuis plus de 12 ans.
C'est pratique, c'est bien, ça va très vite.
On a juste appuyé sur un bouton, on n'a pas besoin de prendre des papiers ni rien.
Ces machines à voter rassurent désormais en temps de Covid et pourraient réduire les risques de contamination.
J'ai rendez-vous avec monsieur le maire
lors des élections.
Je me présente donc devant le président, séparé par des plexiglas.
Didier Gonzalez a imaginé tout un protocole sanitaire. Le maire, épaulé par ses équipes, nous guide dans ce bureau de vote témoin.
Le président va inviter la personne à aller voter dans ce qui est considéré comme l'isoloir. C'est comme si on avait collé des bulletins de vote sur une planche. Sous chaque bulletin se trouve une touche. J'appuie et je valide.
À voter.
La simple opération de dépouillement, c'est tourner une clé qui vous fait sortir un ticket de caisse. Vous avez quelque chose qui limite considérablement les contacts.
Le maire et ses confrères de l'Association des villes pour le vote électronique espèrent la levée du moratoire d'ici la fin de l'année pour permettre un achat massif de machines.
Le quoi qu'il en coûte doit être aussi mis en action pour les opérations de vote.
Trop juste pour les régionales de juin, les élus misent sur la présidentielle de 2022.
Le reportage de Gauthier Delambugard dans le Val-de-Marne pour RTL. Emmanuel Macron en visite à Montpellier aujourd'hui dans un commissariat puis dans un quartier populaire. Le chef de l'État veut défendre sa politique de sécurité du quotidien. Dans un entretien au Figaro, il promet plus de bleu sur le terrain avec 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Il donne la priorité à la lutte contre les trafics de stupéfiants.
Un verdict incompréhensible, voire même choquant pour les syndicats de policiers après le drame de Viry-Châtillon.
Deux policiers avaient été gravement brûlés par un cocktail Molotov en 2016. Lors du procès en appel, 5 jeunes ont été condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans de prison. 8 autres ont été acquittés. Un jugement plus clément qu'en première instance. Mehdi du syndicat Alliance connaît bien l'une des victimes et il ne comprend pas comment on a pu en arriver là.
Vous ferez comment à sa place? Allez-y quoi. Là il y a un appel, c'est pas si grave que ça ce qui s'est passé en gros. Il comprend pas. Il est actuellement encore à l'hôpital. Là. Il se fait opérer régulièrement. Il subit encore cette affaire. C'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Et vous voyez qu'il est toujours en train d'essayer de s'en sortir physiquement. C'est une injustice énorme. Puis je vous dis, à chaque fois qu'il doit rentrer à l'hôpital, il doit y repenser aussi. Quoi. Pas soutenu là, du tout. Là, la suite, elle va être compliquée de remettre pied à terre, de continuer notre travail quotidiennement avec toutes les violences qu'on subit. Tous mes collègues subissent des violences quotidiennement sur le département. Là, c'est pas un bon message pour eux, quoi. On fait notre boulot, quoi qu'il coûte. Mais là, c'est compliqué, là.
Le syndicat Alliance qui appelle à manifester demain devant les tribunaux. Des propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. 5 hommes mis en examen pour enlèvement en bande organisée après le kidnapping de la petite Mia, la fillette de 8 ans, qui a été retrouvée saine et sauve hier dans un squat en Suisse avec sa mère. Son enlèvement avait été extrêmement bien préparé, conçu comme une opération militaire, selon le procureur de Nancy. Une équipe recrutée sur les réseaux sociaux qui avait soustrait la fillette à sa grand-mère en se faisant passer pour des travailleurs sociaux.
RTL, 5h36 minutes. Et on vous propose maintenant un document RTL, justement, le témoignage du père d'un djihadiste français condamné à mort en Irak.
Ils sont 11 djihadistes qui attendent leur exécution pour avoir appartenu à Daesh. RTL a rencontré les parents de l'un d'entre eux, Léonard Lopez, détenu dans une prison de Bagdad.
Il est dans une cellule avec 20 autres détenus. Que le temps passe à ne rien faire, c'est-à-dire à dérouler sa paillasse le soir, la rouler de nouveau le matin, avec des sorties dans la cour relativement peu fréquentes. Il y a des violences sporadiques de la part des gardiens. Tous les prisonniers français ont été passés à tabac. Nous avons l'impression que ce qui le fait tenir, c'est uniquement d'avoir des nouvelles de ses enfants. Ce qu'il nous a dit de son procès, tel qu'il se passe en Irak, c'est-à-dire un procès qui dure un quart d'heure ou une demi-heure, un avocat qui prend connaissance du dossier à l'audience, pas de témoignage, pas de témoin, une condamnation à mort qui est prononcée par des juges qui délibèrent pendant 2 ou 3 minutes. Pour nous, ce type de procès, même s'il y a un ministre des Affaires étrangères qui a déclaré que c'était un procès équitable, est un procès d'où on ne peut tirer aucune vérité. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas de quoi il est accusé, sinon d'avoir rejoint l'État islamique. Quand la France permet que des Français soient livrés finalement à un pays qui va les condamner à mort, ce n'est pas conforme à sa constitution, ce n'est pas conforme à ses valeurs. C'est quelque chose de pas insupportable à vivre, mais c'est une espèce de douleur permanente.
Marc Lopez, le père d'un djihadiste français, avec Nicolas Burnan pour RTL.
Tiens, une dernière minute, libération à l'instant des 11 policiers pris en otage au Pakistan, policiers locaux qui étaient retenus depuis hier par des manifestants anti-français, puisque dans ce pays, un parti islamiste radical multiplie les rassemblements violents depuis qu'Emmanuel Macron a défendu le droit de publier les caricatures de Mahomet.
En football, une sorte de nouvelle Ligue des Champions, mais seulement pour les plus riches. 12 grands clubs européens ont annoncé officiellement hier la création de la Super League. Une nouvelle compétition fermée qui est loin de faire l'unanimité. L'UEFA, qui organise l'actuelle Ligue des Champions, menace d'exclure les équipes qui participeront à cette Super League.
La brigade RTL va tout vous expliquer dans le journal de 6h. Et puis ce sera sans doute l'une des images fortes ce matin, le premier vol d'un hélicoptère sur Mars.
Il a été déposé sur la planète rouge par le rover Perseverance de la NASA. Un véritable défi, comme nous l'explique l'astrophysicien François Forget.
C'est un petit hélicoptère qui fait 50 cm de haut, qui pèse 1,6 kg. Le petit hélicoptère va décoller pendant une trentaine de secondes. Le tout sera filmé par Perseverance. Il y a aussi une caméra à bord du petit hélicoptère et on récupérera les données dans la journée, dans les jours qui vont suivre. On ne va pas voler très haut, mais c'est vraiment un défi hein, parce que l'atmosphère, elle est à peu près 70 fois moins dense que sur Terre. Donc la capacité d'une hélice est 70 fois plus faible. Je crains un peu qu'il puisse y avoir un atterrissage difficile. Ce n'est pas un projet qui avait des visées vraiment scientifiques. C'est une espèce de démonstrateur technologique, peut-être qui préparera plus tard des plus gros engins. On espère qu'il va se reposer bien droit et qu'il ne va pas basculer sur le côté, sinon ce serait la fin de ce projet. D'autres tests auront lieu tous les 4 jours à peu près pour le mois qui vient.
Des propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Décollage prévu à 9h30, heure française.
Et vous, on vous retrouve un petit peu plus tôt, à 6h30 tout à l'heure sur RTL.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
Pour tout savoir des coulisses.